franceinter.fr.
Avec un drôle d'animal aquatique aujourd'hui à la une de la science, son nom c'est l'axolote et ses étonnantes capacités. Le génome complet justement de l'axolote, animal mexicain très proche de la salamandre, vient d'être publié dans la revue scientifique Nature. 32 millions de paires de bases décodées, c'est 10 fois plus que le génome humain. Et donc un travail de titan pour les chercheurs autrichiens à l'origine de ces travaux. L'occasion pour nous donc de parler de cet animal qui fascine les biologistes depuis plus de 150 ans. Et l'occasion pour eux surtout d'essayer de comprendre ses super pouvoirs de régénération. Axel, on en discute avec notre invité.
Oui Mathieu, nous sommes avec le biologiste Jean-Stéphane Joly. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'INRA, coordinateur de l'infrastructure TEFOR, dédiée à l'étude fonctionnelle des gènes de la drosophile et du poisson zèbre. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu d'axolote, je vous invite à regarder tout de suite quelques images sur internet. Et Jean-Stéphane Joly, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cet animal qu'on surnomme le monstre de l'eau? Moi je l'ai trouvé plutôt mignon.
Bah, les gens le trouvent mignon, l'élève, effectivement, ça déchaîne les passions. C'est un animal très bizarre, là, ça, on est sur Terre, mais il y a des choses absolument géniales à explorer, dont le génome de cet animal, effectivement, qui est un petit monde très original. 32 milliards de paires de bases.
Ah, c'est milliards,
c'est milliards.
Ah, pardon. Donc, ah oui, on était loin.
Pardon de le corriger. Ouais, mais
non, vous avez raison. Ouais.
On est à 3 milliards, nous, de paires de bases d'ADN, donc, pour le grand guide, là, qui nous construit. Mm. Et donc cet animal, pour revenir à l'axolote, oui, donc c'est ça fait partie des salamandres, ça a toujours fasciné les gens depuis le Moyen Âge. François Ier, il y a 300 blasons de salamandres à Chambord, parce que c'est un animal qui résiste, qui vit dans l'eau, qui vit sur terre et qui résiste au feu. En fait, elle sortait de leur des bûches dans lesquelles elles étaient cachées, et avec le mucus, elles sortaient du feu, et donc c'est un animal fascinant. Et là, il est d'autant plus fascinant qu'il est, je vais être obligé de dire un gros mot, mais il est néoténique. Alors néoténique, ça veut dire quoi? Vous m'auriez posé la question,
ah, j'imagine. Ah oui, sûrement. Oui.
Donc ça veut dire un animal qui est adulte, qui est capable de se reproduire, mais en fait, qui garde des caractéristiques juviniles.
Oh, donc
juvénile,
chance,
hein. Là, c'est spectaculaire dans ce cas-là, puisque
c'est le Dorian Gray du monde animal, un petit peu, en fait, c'est ça. Hein.
Ouais, c'est... Donc, le juvénile, c'est... va avoir des branchies, va ressembler à une larve, va ressembler à un petit tétard, pour ceux qui connaissent. Et donc, ça va être là un gros tétard de 20 cm.
Mais pourquoi on ne dit pas simplement que c'est une salamandre? Qu'est-ce qui le distingue de la salamandre, alors?
Bah parce que, justement, il faut voir... placez-vous au muséum au 19e siècle. Il ramenait tout un tas de bestioles bizarres de par le monde, dans le thorynque, tout ça. Là, il ramène quelque chose qui est un espèce de gros tétard. Donc, et elle, il le nomme avec un nom d'espèce. Et puis un jour, le tétard, ils reviennent dans le bac et ils trouvent en fait une salamandre. Et là, le débat se lance. Mais en fait, c'est parce que le tétard a été nourri avec des abats de bœuf très riches en hormones thyroïdiennes. Et en fait, il métamorphose, il se transforme en salamandre. Donc c'est une salamandre, oui. C'est une salamandre, mais néoténique.
On parle souvent de ses étonnantes capacités de régénération. Et qu'est-ce qu'il est capable de faire? Il peut refaire pousser tous ses membres?
Alors, tous ses membres, tout à fait, la queue, tout ce que vous voulez. Mais alors, au-delà de ça, ce qui peut intéresser, évidemment, en recherche biomédicale, après, c'est le cœur, le cerveau. Capacité, si vous faites un trou dans les yeux aussi, si vous abîmez la rétine, à repousser totalement. Donc, pourquoi? Quels sont les gènes qui sont là, dans cet animal? Quels sont les qui sont réactivés et pourquoi pas chez nous? Est-ce qu'on peut faire quelque chose chez nous à terme?
Mais on a compris bien ces mécanismes de régénération ou pas?
Alors, on commence à les comprendre. Il y a des pistes avec différents animaux, dont aussi le poisson zèbre en particulier, qui a des capacités de régénération. Clairement, les mammifères régénèrent très peu. Au maximum, un bout de doigt, au maximum le foie. À l'âge adulte, on a perdu toute capacité de régénération et c'est un enjeu important. Et on commence à avoir des signalisations, des cellules qui envoient des signaux et qui favorisent cette régénération.
Ça veut dire qu'il y a des chercheurs qui coupent des pattes d'axolotes pour les regarder
repousser?
Oh non,
pas ça, non.
J'ai cassé l'ambiance, là.
Alors, tout est sous contrôle de comité d'éthique. Effectivement, là, ça pose un problème relatif, puisque c'est un animal adulte, un vertébré adulte, et non pas un vertébré embryonnaire. Donc, il faut faire des demandes La régénération se fait aussi chez des poissons en forme embryonnaire, larvaire. Et là, il n'y a pas de demande d'expérimenter en fait sur ces tout petits animaux. Mais là, effectivement, oui, c'est pas absolument génial comme comme expérience, mais c'est très utile.
Alors, est-ce que dans ce génome qui vient d'être publié, on commence à comprendre certains aspects, certaines bizarreries que vous avez décrites, cette régénération ou ce stade larvaire ?
Alors, dire qu'on comprend des bizarreries du génome. Le génome, donc, c'est le catalogue. Là, il est tout aussi bizarre que l'animal, puisque, comme vous l'avez dit, là, il est énorme. Et il est énorme parce que des éléments répétés, transposables, se sont insérés dedans. Et c'est là où intervient de la technologie à la James Bond, presque. C'est les dernières méthodes de séquençage de l'ADN qui sont extraordinaires. Là, on a en fait des appareils tout petits, hein, ça tient dans la poche, qui permettent de placer une seule molécule d'ADN et une seule polymérase d'ADN. Et de lire sur un zeptolitre, c'est-à-dire 10 puissance -21, là on est dans le moins, -21 litres, c'est-à-dire pas 10 puissance 9, c'est 1 milliard. Donc vous voyez le nombre. Dans ce volume-là, on lit les nucléotides sur une molécule. Et donc on peut lire vraiment une molécule ADN. Et ce qui est très joli, c'est que cet appareil lit des très longues séquences, genre jusqu'à 20 000 paires de bases d'un coup. Et ça facilite en fait la reconstruction des génomes, parce que avec les méthodes plus classiques qui lisent des tout petits fragments, les chercheurs avaient beaucoup de mal à reconstruire ce genre de génome plein d'éléments répétés. Et là, avec cette nouvelle méthode révolutionnaire qui s'appelle le PacBio, là, commercialement, on a cette séquence d'ADN qui sort. Et on voit qu'effectivement, elle est complètement colonisée par ces éléments répétés. Et là, la question qui vient évidemment et qui n'est pas répondue dans le papier d'ailleurs, mais ce sera pour la prochaine fois, c'est quel est le rôle de ces éléments répétés dans précisément la capacité qu'a l'animal à se régénérer.
On voit qu'il y a une prouesse technique derrière ces travaux, mais ils n'ont pas fait que séquencer d'ailleurs, puisqu'ils ont aussi modifié l'ADN de l'axolote.
Voilà, alors il y a deux prouesses techniques qui sont parmi les fronts de science en biologie à l'heure actuelle, en biotechnologie. Donc le séquençage de grands fragments maintenant à haut débit, et puis ce qu'on appelle l'édition du génome, qui est une méthode tout à fait révolutionnaire pour modifier maintenant tous les génomes des animaux et des plantes, des bactéries, de tout ce que vous voulez, de nous aussi, le couper ou bien changer les paires de bases. Donc ça se fait soit avec des molécules appelées TALEN, soit des molécules qui s'appellent CRISPR. Et là, c'est tout à fait fascinant qu'ils arrivent à faire ces modifications-là dans cet animal-là, qui est finalement très peu élevé en laboratoire. Et à poser une question précise, là, dans le papier, il manque, en fait, un gène, un des deux gènes qui, normalement, est chez tous les animaux. Et cet animal-là a perdu ce gène-là. Et donc, il casse l'autre, en fait, pour étudier ce qui se passe.
Pour terminer, pour sortir du laboratoire, dans la nature, les axolotes vont bien ?
Bah non, ils vont mal en plus là, donc justement problème, c'est donc on les trouve dans un lac au Mexique quasiment, et leur nombre est en chute libre. On ne sait pas bien pourquoi d'ailleurs, peut-être la pollution, peut-être le fait que ça sert d'aliment là-bas. Enfin, c'est apparemment.
Ah, on mange l'axolote. Hein.
Pardon.
Ils mangent l'axolote au Mexique.
Bah oui, c'est ce qu'on dit. J'ai pas eu le temps d'aller chercher les recettes là, mais je vous les ramène la prochaine fois.
Bon, non, on les prend pas. En fait, non, on ne prendra pas la recette de l'axolote. C'est tellement kawaii, hein, cet animal, c'est adorable. Allez voir sa photo. Et puis, ça fait aussi l'objet de recherches, hein, pour les scientifiques. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Stéphane Joly, pour vos explications. Et puis, Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, dans le reste de l'actualité, la découverte d'un immense réservoir de mercure dans le pergélisol, cette couche gelée en permanence dans les zones froides de l'hémisphère nord et qui renferme environ 10 fois la quantité de mercure produit par l'homme depuis 30 ans. Emprisonné depuis des milliers d'années, le mercure pourrait s'échapper avec la fonte des glaces due au réchauffement climatique. Les chercheurs s'inquiètent des répercussions que cela pourrait avoir sur l'ensemble des écosystèmes marins et terrestres, d'autant plus que 24% des terres au-dessus de l'équateur sont du pergélisol. Ces nouvelles données aideront les spécialistes à mieux comprendre le cycle global du mercure et à anticiper les conséquences conséquences de la fonte, justement, du pergélisol. La méditation ne rend pas forcément bon, outre les nombreux bienfaits sur la santé, comme la réduction du stress ou une meilleure gestion de l'anxiété. Il est parfois admis que sa pratique rend plus empathique. Eh bien, c'est faux, selon des chercheurs anglais. L'analyse d'une vingtaine d'études sur le sujet indique qu'elle ne joue aucun rôle particulier dans la réduction de l'agressivité ou sur les relations aux autres. La prétendue compassion développée par la pratique de la méditation est le plus souvent mise en avant dans les travaux de chercheurs. Également professeur de méditation, un conflit d'intérêts évident qui rend difficile la prise en compte du résultat. Les chercheurs incitent donc à relativiser le pouvoir de certains types de méditation. Et puis pour finir, une étrange araignée à queue retrouvée dans de l'ambre âgée de 100 millions d'années. Un spécimen qui présente des caractéristiques d'espèces modernes et archaïques et qui s'apparente véritablement à une chimère longue d'environ 8 mm. Plus de la moitié de sa taille correspond donc à une queue couverte de poils comme les scorpions. D'après les chercheurs de l'université du Kansas à l'origine de cette découverte, cet appendice lui servait à détecter son environnement. Pour eux, il est même possible que certains de ses descendants à queue soient encore présents en Birmanie où le fossile longue de 100 millions d'années a été retrouvé, de quoi réjouir tous les arachnophobes de cette région du monde.